Mention demandée. Voilà.
Merci. Y a-t-il des questions ? Madame Thibault.
Oui, donc je reviens sur le budget prévisionnel, donc sur les dépenses de fonctionnement. Sur il y a un truc sur les charges, sur le zéro, enfin attendez, je retrouve ça sur l'article. Oh mince, attendez, je retrouve ça, j'ai tellement de papier. Article 011, donc sur le 62-26, je voudrais avoir les détails sur les honoraires, parce que là, ça grimpe à vitesse grand V, entre autres charges à caractère général, donc c'est le 62-26, les honoraires, donc entre parenthèses, il y a expertise médicale, vétérinaire, avocat, commissaire enquêteur. Donc je voulais savoir quelle était la part de toutes ces... cette ventilation, répartition, parce qu'on voit que c'est en augmentation.
Est-ce que vous voulez qu'on vous réponde au fur et à mesure ou après?
Ben là, répondez-moi, oui, parce que...
Au fur et à mesure, c'est plus facile. Alors, les honoraires, déjà, je peux vous dire que au niveau des vétérinaires, là, ça évolue d'une année sur l'autre. Vous savez que le maire est tenu par la police des animaux errants. Donc, il peut se trouver qu'une année, on ait plus de chiens errants ou de chats, en particulier, à confier à la fourrière. Il faut que nous payions un vétérinaire, donc ça peut très très bien être ça. Par contre, au niveau des, vous avez parlé des honoraires de...
Je voudrais le montant, à peu près une enveloppe par rapport aux frais vétérinaires.
On les a pas là.
Les honoraires.
Écoutez, on les a pas là, on vous les retrouvera. Il y a les en fait, effectivement, il y a les expertises, il y a les frais de vétérinaire qui sont variables. On a aussi eu beaucoup d'expertises médicales du fait d'un certain nombre d'agents pour lesquels on a fait des expertises médicales pour des demandes d'invalidité. Je crois de mémoire qu'on en a eu trois cette année, alors qu'on en avait eu qu'une seule lors de l'exercice précédent. Dans les frais d'avocat, nous avons une partie du contentieux lié à la préemption de l'ex-serpent noir, puisque là nous avons mandaté un avocat pour défendre les intérêts de la commune.
Ça figure sur la ligne en dessous, hein. C'est pas sur la même ligne, il y a 2000 euros sur la ligne en dessous. Donc, concernant le...
Quand il n'y a pas sur cette ligne-là.
Concernant le serpent noir.
Donc en fait, bon, les frais d'avocat, effectivement, sont sur la ligne du dessus. Donc ça, il faut le supprimer. Parce que... On a également des honoraires liés au recrutement que nous avons effectué à la crèche, puisque nous avons fait appel à des cabinets spécialisés. Et ensuite, commissaire enquêteur, on avait encore des choses à solder sur 2017, sur cette... voilà. Voilà, en gros, les dépenses. Maintenant, si vous voulez le détail, on vous sortira le détail.
Oui, je demande le détail, merci. Alors, sur le chapitre fonctionnement, on a débattu déjà lors de DOB. Fêtes et cérémonies, 62-32, où il y a déjà pratiquement 50% d'engagés. C'est la balade gourmande, d'accord.
On a toute la balade gourmande qui, pour mémoire l'année dernière, les dépenses de la balade gourmande se sont élevées à 35 000 euros. Cette année, nous avons des groupes plus importants. Je crois que nous passons à des groupes de 130 à 140 personnes. Donc forcément, les engagements sont plus importants encore que l'an passé. Et les recettes seront aussi en conséquence.
Tu voulais intervenir sur le... Investissement, moi aussi. Investissement. Vas-y.
Je vous en prie. Monsieur Mengui.
Oui, sur les investissements et en particulier sur les dépenses liées à la voirie. Il y a des dépenses engagées, mais en termes de... je dirais, de renouvellement de voirie, en particulier voirie rurale, je vois pas grand chose.
J'ai pas compris complètement votre point.
Il y a effectivement des travaux prévus sur la voirie, mais de réfection totale de la voirie rurale, il y a pas grand chose. Il y a même rien du tout cette année. Alors l'année dernière, je vous avais posé la question, mais vous m'aviez dit c'est le tour de ville, on peut pas tout faire. Bon, cette année, je vois qu'il y a pas vraiment de réflexion complète de certains chemins ruraux dans notre commune, et je crains qu'on prenne du retard. Voilà, je vous l'avais dit déjà l'année dernière. Alors, je renouvelle mon observation.
Alors, vous m'entendez là?
Non.
Oui. Pour votre question sur la voirie rurale, d'abord il faut savoir qu'il y en a un certain nombre qui figure dans le dossier dans le chapitre fonctionnement.
Investissement de ce qui est dans l'investissement.
Oui, non, mais il y a des réfections de voirie qui se trouvent dans la section de fonctionnement. Deuxième réponse que je vous ferai. Certes, l'année dernière, je vous avais parlé de le tour de ville, mais là cette année, on a un autre cas de figure. Encore une fois, donc nos capacités d'investissement malheureusement sont de plus en plus restreintes. Donc il a fallu que nous fassions un choix face aux nouvelles circonstances. Il faut faire preuve en la matière de pragmatisme. Et ces nouvelles circonstances, c'est le fait que, ça s'est fait comme ça. Nous avons pu nous rendre maîtres de tous les immeubles, du foncier qui concerne la sécurisation et l'embellissement de l'entrée de ville. Donc effectivement, dans un budget prévisionnel, on met un petit peu le paquet sur ce dossier-là, sur ce projet-là, parce qu'on a l'occasion de le faire, et qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et que l'État étant de plus en plus pingre dans sa manière d'aider les communes rurales, notamment, il a un petit moyen détourné, c'est de nous dire, oui, vous allez avoir une subvention, mais il faut rendre le dossier sous 15 jours, donc il a fallu aller très 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 vite, donc on est un petit peu, malheureusement, un petit peu, je dirais pas à l'aveuglette, mais on n'y voit pas suffisamment clair à ce stade pour savoir combien précisément va nous coûter le projet de l'entrée de ville pour lequel, et là je pense, d'ailleurs vous l'avez voté aussi, je vous en remercie, ça a été voté à l'unanimité, c'est vraiment quelque chose de très important pour la commune, on a l'occasion de le faire, on le fait, on a l'occasion de toucher une subvention de l'État, même minime, on la saisit, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on ne sait pas ce que deviendront les aides de l'État l'année prochaine, donc on a saisi l'occasion de mettre le paquet sur l'entrée de ville, ce qui ne nous empêchera pas, comme chaque année d'ailleurs, vous le savez, puisque vous avez été adjoint, lors notamment de la décision modificative qui risque cette année d'être relativement importante, de justement de faire un certain nombre d'investissements en matière de voirie rurale si les finances du moment nous le permettent. Voilà, on n'a pas oublié la voirie rurale, mais on a eu l'occasion de mettre le paquet sur l'entrée de ville et on l'a saisi.
Je fais.
Madame Thibault.
Bien, effectivement, on a voté à l'unanimité la demande de subvention, mais on n'a pas encore voté le projet. Parce qu'aujourd'hui, ce projet, on n'a aucune esquisse, on ne sait pas ce qui va être fait. Donc voilà, permettez-nous. Enfin,
il était un petit peu tôt en parler. J'ai expliqué il y a 5 minutes, même pas pourquoi. Oui. Donc on a vraiment fait au plus vite pour ne pas perdre la subvention, l'aide de l'État, qui est ô combien précieuse. Et si nous ne l'avions pas fait, peut-être que vous nous l'auriez reproché aussi.
Donc on pourra y revenir pour la délibération.
Si on se plaint de la baisse de dotation de l'État, mais quand par hasard il y en a eu, on l'a saisi quand même. Il a fallu faire travailler un bureau d'études très très vite, il y a eu une commission pour les travaux d'ailleurs, vous aviez tout le loisir de poser des questions si vous aviez été là. voilà. Pour l'instant, mais vous comprendrez après, je vous donne la parole. Pour l'instant, encore une fois, on en est qu'aux esquisses.
Vous savez. Vous parlez trop fort.
On entend. Ah, d'accord. Vous savez que aussi, il y a l'intervention de l'architecte des bâtiments de France qui va être obligatoire. Donc nous avons déjà commencé à travailler avec lui. Il va venir sur le terrain, dans Camaret, prochainement, et on va essayer de voir avec lui ce qu'il sera loisible de faire en entrée de ville. C'est pour ça que il est un peu prématuré, si vous voulez, d'avoir une esquisse à vous présenter à ce jour. Je vous en prie.
Oui, alors déjà je tiens à rectifier, j'étais présente à la commission des travaux, mais j'ai pas eu de plus de réponses que je n'ai ce soir.
Ben, je vais vous expliquer oui. Où est-ce que nous en étions.
Oui, mais enfin on verra sur l'autre délibération, en fait, des demandes de subventions et voilà. Et quand on respecte pas les délais et les procédures, effectivement, on n'a pas les subventions. Voilà, donc c'est de l'anticipation, c'est de la réflexion rapide qu'il faut. Moi, je reviens sur l'investissement, sur les frais d'études. Alors, c'est l'article 2000, si je lis bien, parce que j'ai un problème avec l'identique, 2031. Frais d'études, rénovation du Ravelin, je vois 6 000. Et je vois autre chose, études, gestion, exploitation, terrain du motobol. Je voudrais savoir ce que c'est. Ça correspond à quoi ?
Alors, frais d'études, rénovation du Ravelin, c'est comme c'était indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, je crois que c'était indiqué aussi dans ce qu'a dit Madame Gilles, la note concernant le budget primitif, c'est l'étude préalable à la rénovation du Ravelin faite par un architecte du patrimoine sous le contrôle de la Direction régionale des affaires culturelles, suite à l'étude qui avait été faite, la pré-étude, puisqu'il faut faire des pré-études avant de faire les études, c'est la simplicité du système français. Donc pré-étude qui avait été faite par le CAU, mais qui ne suffisait pas, il faut avoir recours à un architecte du patrimoine sous le contrôle de la Direction régionale des affaires culturelles. Ensuite, étude gestion d'exploitation du stade de motoball, c'est tout simplement à la demande des services préventionnistes, des pompiers et de la gendarmerie, une étude qui va permettre d'organiser le fonctionnement du motoball avec les nouvelles normes, notamment d'accessibilité et de sécurité incendie. C'est une demande qu'on nous a faite en toute fin d'année 2017 et que nous allons mettre en œuvre dès cette année, voilà, pour permettre au stade de motoball de fonctionner en toute légalité.
Donc voilà encore une dépense nouvelle qui vient s'ajouter à nos dépenses de fonctionnement et qui vient grever une fois de plus encore notre capacité d'autofinancement. Les dépenses liées à la sécurité, vous avez beau lever les yeux au ciel, la sécurité, les camarétoires, je pense, comme tous les Français y tiennent. Donc l'État nous impose énormément de nouvelles mesures, de nouvelles normes, à nous, comme d'ailleurs aux organisateurs de manifestations. On est tous logés à la même enseigne. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même la commune qui prend en charge ce genre de nouvelles dépenses liées à la sécurité de certaines manifestations.
Oui, mais comme ça a toujours été le cas, d'ailleurs.
Ah non, absolument pas. Là, si on... Alors là, on va s'amuser, Madame Thibault, à faire un comparatif. On va s'amuser à faire un comparatif entre les dépenses de ce type sous votre mandat et les dépenses auxquelles nous sommes confrontés, nous, maintenant. Donc, dans le mandat de...
Si ça... pour la mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des bâtiments municipaux, l'agenda que le préfet nous a validé en 2016 et qui doit être terminé en 2021 coûtera à la commune près de 600 000 euros.
Oui, voilà. Mais c'était budgétisé, c'était vu déjà depuis très longtemps, parce que la mise aux normes des personnes à mobilité réduite, ça date pas de 2016.
Alors il n'y avait rien de budgétisé dans la matière avant l'année 2016. Moi, j'en reviens aux dépenses liées à la sécurité. Ne vous en déplaise. Eh bien, voilà, il faut tenir compte du contexte, du terrorisme, du fait que même dans les communes rurales comme Camaré, on peut être un jour concerné, ne vous en déplaise, et donc il faut tenir compte des demandes de sécurité qui émanent soit des associations, soit des écoles, de nos écoles publiques aussi. On est obligé de faire tout un certain nombre de dépenses qui sont nouvelles, ne vous en déplaise, par rapport à ce que vous avez connu. Oui, c'est un peu la forme de... Alors, s'il n'y a plus de questions ou d'observations, nous allons passer au vote. Qui est contre? Donc, le groupe de Madame Thibault, Monsieur Payalonga aussi, je crois. Non. Qui s'abstient? Monsieur Payalonga. Adopté à la majorité, et je vous en remercie. Alors, donc, dossier numéro 6, attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale de Camaret-sur-Aigue. Vu le budget 2018 du Centre communal d'action sociale de Camaret-sur-Aigue, vu l'avis de la Commission des finances du 28 mars 2018 relatif à l'attribution d'une subvention de 66 166,29 € au Centre communal d'action sociale de Camaret, vu le budget de la commune pour l'exercice budgétaire 2018 et notamment l'article 65, 73, 62 de la section de fonctionnement, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention 2018 de 166 166,29 € au Centre communal d'action sociale de Camaret, d'imputer les sommes relatives à cette subvention à l'article budgétaire 65, 73, 62 de la section de fonctionnement. Madame Thibault.
Oui, bien, je n'ai pas eu, je voulais demander lors du dernier conseil municipal, donc le DOB, le compte administratif, et le compte de gestion, j'ai rien eu. Donc,
oui, parce que ça n'a pas encore été voté, le compte administratif et le budget n'ont pas encore été votés, donc on vous fera un paquet commun du DOB, du compte administratif et du budget prévisionnel, quand ils seront votés. Là, il s'agit simplement de contribuer au budget par l'attribution d'une subvention. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Arcusé et Madame Seller, adopté à la majorité, je vous en remercie, ainsi que les camarétois les plus nécessiteux. Dossier numéro 7, attribution des subventions aux organismes de droit privé, rapporteur, qui va être Sylvain Togil.
Vu le budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice budgétaire 2018, vu les demandes de subventions faites par différentes associations et organismes de droit privé pour l'année 2018, vu l'avis de la commission des finances réunie le 28 mars 2018, il est demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes, fonctionnement et exceptionnel, conformément au tableau récapitulatif annexé, pour les associations sportives, culturelles, les associations et organismes de droit privé intervenant dans le domaine de l'action sociale, associations enfance, scolaires et organismes de droit privé divers. Les sommes relatives à ces subventions seront imputées à l'article budgétaire 65-74 de la section de fonctionnement du budget 2018 de la commune de Camaret-sur-Aigue pour un montant total de 123 238,45 €. Vous avez annexé le tableau récapitulatif.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Arcusé, Madame Seller et Monsieur Gilles. Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Madame Thibault.
Excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'intervenir après le dossier numéro 6 pour l'attribution de subventions au Centre communal d'action sociale.
Je vous ai passé la parole pourtant.
Oui, mais c'est quand vous avez terminé, vous avez parlé, je vous remercie au nom des personnes nécessiteuses. Donc vous laissez.
Bien sûr, je pense que c'est le
but. Les 66 166 euros, sont uniquement destinés aux personnes nécessiteuses de.
Bah, au budget du CCAS, comme son nom l'indique, comité communal d'action sociale.
Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est exactement ce qui est donné vraiment aux personnes.
Alors, vous le saurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le budget global du CCAS sera voté. Vous aurez le détail qui, je vous rassure, ne va pas beaucoup évoluer par rapport aux années précédentes. Vous posez peut-être un peu une question alors que vous en connaissez déjà la réponse.
Oui, mais je connais la réponse, mais c'est votre réponse qui laisse entendre que vous donnez 66 000 euros à des personnes nécessiteuses.
Le fait est que le comité d'action sociale a pour but d'aider les personnes les plus nécessiteuses de diverses zones d'ailleurs de la commune. Ça, il me semble que c'est un peu une évidence. Je ne vois pas pourquoi vous semblez la contester. Alors, je passe au dossier numéro 8. Organisation de gestion de l'enseignement. Si on a voté. Si. Certaines personnes ont pu peut-être s'abstenir parce que, comme vous l'avez compris, elles font partie du bureau de certaines associations qui viennent d'être subventionnées.
Vous rectifierez, ça
ne
vous embête pas.
Attendez, excusez-moi. D'abord, prenez un micro pour que tout le monde puisse vous entendre.
Ah oui. Non, mais donc je ne participe pas au vote sur les subventions parce que, comme vous l'avez dit et ça m'a échappé, je suis membre du conseil d'administration de Cinéra 20.
Et ça sera noté au procès verbal. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Alors, donc, nous revenons au dossier numéro 8. Organisation de gestion de l'enseignement catholique, OGEC, convention pour la participation au fonctionnement de l'école Saint-Andéol, rapporteur Jean-François Leroy.
Organisation de gestion de l'enseignement catholique OGEC, convention concernant la subvention de fonctionnement de l'école Saint-Andéol. Le financement des classes élémentaires publiques et privées est une dépense obligatoire des communes. Il est proposé une nouvelle convention avec l'organisation de gestion de l'enseignement catholique OGEC afin de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Saint-Andéol par la commune de Camaret-sur-Aigle. Si le financement des classes élémentaires est réglementé, celui des classes maternelles n'est pas une obligation. La présente convention fixe un forfait par élève égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques élémentaires de Camaret-sur-Aigle, l'école primaire, Frédéric Mistral et les Amandiers. Ce forfait est établi à partir des dépenses relevées dans le compte administratif L-1 de la commune. Le montant du forfait communal versé annuellement par la commune correspond au coût moyen de l'élève du public élémentaire multiplié par le nombre de l'élève de l'école Saint-Andéol, âgé de plus de 3 ans, présent à la rentrée scolaire et dont la résidence se situe sur la commune de Camaret-sur-Aigle. Le montant de ce forfait fait l'objet d'une révision annuelle. Pour l'exercice 2018, il s'élève à... Coût moyen de l'élève public élémentaire, 458,47 € multiplié par 95 élèves camarétois âgés de plus de 3 ans à l'école Saint-Andéol, ce qui correspond à un total de 43 554,65 €. En conséquence, pour 2018, le montant du forfait communal versé sera de 43 554,65 €. Vu les articles L212-8, L442-9 et R442-44 du Code de l'éducation, vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le décret 60-389 du 22 avril 1960, modifié et notamment l'article 7, vu la circulaire 2007-142 du 27 août 2007. Vu le contrat d'association du 10 mai 1989 passé entre l'État et l'école privée Saint-Andéol de Camaret-sur-Aigle ainsi que l'avenant du 27 juin 2007 Vu les sommes allouées aux écoles publiques de Camaret-sur-Aigle pour l'année civile 2017, vu les effectifs des écoles publiques de Camaret-sur-Aigle pour l'année 2017-2018, vu les effectifs de l'école privée Saint-Andéol, vu le budget 2018 de la commune, vu l'avis de la commission des finances réunie le 28 mars 2018, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention concernant la subvention de fonctionnement de l'organisme de gestion d'enseignement catholique OGEC, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent, de louer une subvention de fonctionnement d'un montant de 43 554,65 € à l'organisation de gestion de l'enseignement catholique au titre de l'année 2018. De dire que cette somme est imputée à l'article 65-58 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Merci de votre attention.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Bengui ?
C'est sur la mise à disposition de la de l'animateur sportif. Qu'est-ce qu'il en est cette année ? Parce que apparemment, je n'en vois pas. Vous n'en parlez pas.
Qu'est-ce qu'il en est ? Comme l'année dernière, il est mis à la disposition des écoles publiques comme de l'école privée Saint-Andéol.
Mais ça n'apparaît pas.
C'est pas détaillé, mais c'est bien compris. Il n'y a pas de changement là-dessus.
Tous les ans, dans les délibérations, ça apparaissait. Cette année, vous l'avez pas mis, donc.
Je vous dis.
L'année dernière, vous me dites non, moi je vous dis oui. L'année dernière, ça apparaissait.
On a passé l'année dernière une délibération qui a modifié le mode de calcul du forfait de l'OGEC Saint-Andéol, qui est définitivement, jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement, calculé en ne déduisant plus le coût de l'animateur sportif mis à la disposition de l'école Saint-Andéol. Donc il n'y a pas besoin de le préciser plus en avant dans la délibération ou dans la convention, puisque ça a été acté par le conseil municipal. Comme le conseil municipal avait acté la base du mode de calcul.
Bon, c'est pas satisfaisant comme réponse, mais.
Ok. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, dans ces conditions, je mets aux voix. Qui est contre ? Monsieur Mengui, le groupe de Madame Thibault. Donc, contre la subvention à l'OGEC Saint-Andéol.
Oui, je peux m'en expliquer.
Ah, mais vous en prie.
La deuxième année que la question se pose. Nous considérons que c'est une mise à disposition gratuite de personnel municipal. Et donc, je pense que ça ne devrait pas être déduit.
Mais il est gratuit pour les copies. Oui.
En tout en sachant que les écoles privées, je pense que celle de Camaret, revendiquent un peu son caractère propre et qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'école publique et les écoles dites privées.
Donc,
quoi.
Donc vous sous-entendez qu'il faut.
Je sous-entends rien. Je dis que c'est une mise à disposition gratuite de personnel communal et que l'année dernière, il a dit oui, mais c'est la même chose. C'est les écoles, on a égalité de l'école publique et l'école privée, sauf que les écoles privées, vous le savez certainement, elles revendiquent un peu leur caractère propre. Je vous donnerai des éléments si vous voulez une information là-dessus.
Elles n'en participent pas moins à un service public de l'éducation nationale. Ce que vous entendez, ça reviendrait à quelque part faire une différence entre une école privée catholique et une école publique. Nous mettons à la disposition à titre gratuit, alors que d'ailleurs c'est facultatif, hein, mais on le fait pour l'intérêt général. Donc à titre gratuit, Monsieur Antoine Deschamps, à la disposition des écoles publiques, nous ne pratiquons pas de discrimination vis-à-vis d'une école au seul prétexte qu'elle serait, comme vous le dites, qu'elle revendiquerait son caractère privé catholique. Il n'est pas capable de ça chez nous. L'école privée Saint-Andéol participe encore une fois à un service public au sens large, certes, mais elle est sous contrat. Elle est soumise aussi à un certain nombre nombre de demandes, de contraintes de la part de l'éducation nationale, et c'est pourquoi le législateur a permis des subventions publiques pour ce type de service public privé catholique, parce que c'est aussi un service public. Voilà, il n'y a pas de discrimination entre les deux écoles. On fait beaucoup pour les écoles publiques de Camaret, vous le savez. Si on veut faire quelque chose aussi pour l'école privée, nous ne pratiquerons pas de discrimination religieuse.
C'est votre décision et c'est votre volonté.
Absolument, et nous la revendiquons. Alors, là-dessus, je mets aux voix. Qui est contre ? C'est fait. Bon, ben voilà. Effectivement, c'est fait. Je remercie Mme Salaire de bien suivre. Alors, nous en sommes au dossier numéro 9, bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2017, rapporteur Christine Winkelmann.
Merci. Conformément à l'article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995, modifié par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, le bilan 2017 des acquisitions et cessions immobilières a été dressé. Il se caractérise par l'acquisition de deux parcelles cadastrées section E289 et 290 situées à Camaret-sur-Aigle, quartier Temple de Perrette. Acte notarié en date du 2 juin 2017. L'échéance avec soulte entre la parcelle cadastrée section AT288 cédée par la commune et l'acquisition de deux parcelles cadastrées section AT289 et 69 situées avenue Louis Pasteur. Acte notarié en date du 15 mars 2017. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan ci-dessus dressé.
Merci. Y a-t-il une question, Madame Thibault ?
La première parcelle, il s'agit de la Garriguette, c'est ça, pour un montant de 8 000 euros ?
On a racheté.
Oui, c'est ce
le terrain qu'on a racheté.
Je vais répondre.
C'est le terrain qu'on a racheté. Pardon ?
Oh non, allez-y.
Non, j'ai pas entendu ce
que... Non, je sais bien que vous répondiez, vous. C'est bien.
C'est le terrain qu'on a acheté à M. Nperer pour faire le parking de la Garriguette.
Et le deuxième, c'est quoi ?
Le deuxième, c'est le garage Bouzet. C'est Bouzet. Avec Soult. Donc il y a une, comme il s'est marqué, hein, il y a un échange avec Soult.
Pour un montant
C'était combien ? Je ne sais plus combien, c'était 111.
Un montant, ça a été un échange et la commune a gagné de l'argent dans l'affaire puisque le terrain qui était cédé par la commune en échange était plus important en surface que le terrain qui nous était cédé. Donc la soulte nous a été versée. Mais ça doit figurer malgré tout au bilan annuel des acquisitions et des cessions.
On peut vous le faire parvenir, c'est pas un souci.
Oui.
Et je rappelle que c'est un dossier très 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 ancien que nous avons enfin réglé dans l'intérêt général et pour les... Oui, merci Madame Seller, je vous remercie. Alors, là il faut voter. Qui est contre le bilan ? Qui s'abstient ? Le groupe de Madame Thibault, adopté à la majorité. Dossier numéro 10, rénovation thermique, électrique, ventilation et chauffage de l'école Frédéric Mistral. Demande de subvention auprès du département, rapporteur Michel Lagarde.
Dans le cadre de sa politique de rénovation des bâtiments municipaux et plus particulièrement des établissements scolaires, la municipalité souhaite procéder à d'importants travaux sur l'école primaire Frédéric Mistral. Le projet vise à remplacer l'actuel mode de chauffage défaillant et énergivore, convecteur obsolète et planche chauffant électrique, consommateur d'énergie. Ces travaux permettront aussi de renforcer l'isolation thermique du bâtiment, tant au niveau des plafonds que pour les murs et les menuiseries, en plus de l'installation d'un mode de chauffage moderne, adapté au bâtiment et doté de meilleures performances énergétiques. Il conviendra également de remettre en conformité le réseau électrique et de remplacer les modes d'éclairage actuels pour les remplacer par des systèmes LED, qui contribueront aussi à diminuer les consommations électriques du bâtiment. L'ensemble de ces travaux répond aux objectifs de développement durable inscrits notamment dans le plan climat-énergie territorial du département. Un diagnostic et un avant-projet sommaire ont été réalisés par le bureau d'études Agifluide. Ces travaux sont programmés sur 2 années. La première phase prévoit pour 2018 l'installation d'un nouveau mode de chauffage et de rafraîchissement, pompe à chaleur de type Biplips, la reprise du circuit de ventilation VMC, le remplacement des dalles de faux plafond dans les classes, la remise aux normes électriques et l'installation de luminaires LED dans les salles de classe. La phase 2 prévoit pour 2019 le remplacement des menuiseries et l'installation d'une isolation extérieure. Le coût total des études et travaux est estimé à 338 889,40 €. Considérant le coût non négligeable de ces travaux, Monsieur le maire propose de solliciter pour le projet décrit ci-dessus une subvention auprès du département de Vaucluse au titre du contrat départemental de solidarité territoriale 2017-2019, selon les modalités approuvées par l'Assemblée départementale en date du 31 mars 2017, pour les communes de moins de 5000 habitants. Considérant que la subvention au titre du contrat départemental et solidarité territoriale 2017-2019 ne peut excéder 50% du montant total hors taxe de la dépense subventionnable, soit une subvention sollicitée de 169 444,70 €. Vu l'avis de la Commission des finances réunie le 19 mars 2018, vu le montant estimatif des travaux, vu le plan de financement prévisionnel, montant des travaux hors taxes, travaux, 338 889,40 €. Recettes, commune de Camaret-sur-Aigle, 169 444,70 €, 50%. Département, 169 444,70 €. Total, 338 889,40 €. Vu le budget de la commune, il est demandé au conseiller municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, de solliciter auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental de Vaucluse une subvention à hauteur de 169 444,70 € au titre du contrat départemental de solidarité territoriale 2017-2019 pour la réalisation du projet décrit ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Mengi?
L'année dernière, on avait eu la même même délibération et apparemment, donc, on recommande. Vous aviez fait une demande auprès de l'État au titre d'un autre dispositif. Alors ça n'a pas été engagé en 2017. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? L'année dernière, c'était.
Alors l'année dernière, on a demandé au titre de ce dossier une subvention un fonds d'État qui, de mémoire, est le SIPL, qui ne nous a pas été accordé. Donc, la subvention ne nous ayant pas été accordée, les élus ont décidé de reporter le dossier à l'exercice suivant, en ayant recours à une autre subvention, qui en l'occurrence est la subvention qui a suivi la contractualisation habituel du conseil départemental et qui s'appelle maintenant le contrat départemental de solidarité territoriale. Mais la subvention de l'année dernière a été une subvention d'État qui ne nous a pas été accordée.
Parce que les travaux devaient être faits commencement de travaux en fin 2017. C'était dans la délibération. Est-ce que c'est ça qui a fait que... D'accord. Et du coup, cette année, le montant total des travaux est en augmentation. Alors, si j'ai bien lu la délibération, il semblerait qu'il y ait des travaux supplémentaires par rapport au projet initialement prévu. C'est bien ça?
Tout simplement parce qu'on a étendu le projet à la totalité de l'isolation du bâtiment, c'est-à-dire plafond, menuiserie, et murs, qu'il y a également, depuis le dossier de l'année dernière, des demandes de nouveau des services de sécurité, notamment des services de sécurité incendie concernant le système d'incendie de l'école, et un certain nombre d'adaptations sur le réseau électrique, également pour répondre aux normes, aux nouvelles normes de sécurité. Ce sont des suggestions qui sont en plus par rapport au dossier de l'année dernière. Madame Thibault.
Oui, si j'ai bien compris, cette subvention, c'est la contractualisation ancienne, c'est ce qu'on appelait avant la contractualisation, donc c'est sur 3 ans. Vous avez mis la totalité sur
2019. Oui, 3 ans.
Encore des questions? Plus de questions? Eh bien, écoutez, dans ces conditions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, aménagement du carrefour giratoire RD43, chemin de Pulenc. Approbation de la convention de cofinancement et de comaîtrise d'ouvrage. Rapporteur Hervé Auriac.
Le carrefour RD43 chemin de Piolenc se situe au débouché d'une zone d'activité en pleine expansion. Ce secteur connaît par ailleurs une circulation importante et a été le lieu de nombreux accidents, quelquefois graves. Pour améliorer la circulation et sécuriser ce point, il est envisagé de réaliser un carrefour giratoire. Le département de Vaucluse, la communauté de communes et la commune ont manifesté leur volonté de réaliser une opération unique qui résulte de la complémentarité des ouvrages, l'existence de parties commune et la répartition de la jouissance des biens. Conformément aux dispositions de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrages publics et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvres privées, dite loi MOP, cette convention entend définir les modalités de transfert et d'exercice de la maîtrise d'ouvrages relative à l'aménagement de la RD43 ainsi que la répartition financière des travaux. L'opération sur la RD43 consiste en la réalisation d'un carrefour giratoire avec signalisation verticale et horizontale ainsi que les travaux relatifs au réseau pluvial. La maîtrise d'ouvrage en sera confiée au département de Vaucluse selon les modalités prévues par la dite convention. Le montant total estimé de cette opération s'élève à 564 700 euros hors taxes. La répartition proposée de 50% pour le département, 25% pour la communauté de communes et 25% pour la commune. Le montant prévisionnel de la participation communautaire est de 141 175 euros hors taxes. La même chose pour la commune, 141 075, et le département, 282 350 euros hors taxes. Toute évolution à la hausse des participations financières incombant à chacune des parties devra être soumise à approbation dans les mêmes conditions que la présente convention. Vu l'avis de la commission des travaux réunie le 3 avril 2018, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités du projet fixées par la convention jointe en annexe, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc vous avez la convention derrière. Des remarques? Merci.
Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 12. Structure multi-accueil. Modification du règlement de fonctionnement. Rapporteur Jean-François Leroy.
Structure multi-accueil, modification du règlement de fonctionnement. Par la délibération du 16 septembre 2010, le conseil municipal a approuvé le règlement de le fonctionnement de la structure multi-accueil. Ce dernier ayant été modifié par délibération le 13 septembre 2012, le 4 juillet 2013, le 23 octobre 2014, le 27 novembre 2014, le 7 décembre 2017 et le 8 février 2018. À la suite du contrôle opéré du 5 au 7 décembre 2017 par la CAF de Vaucluse auprès de la structure Les Bouchoux, une synthèse a été adressée à M. le maire en date du 22 mars 2018. Une remarque concerne la déduction tarifaire des congés des familles dans la mesure où ces dernières respectent le délai de prévenance exigé par le gestionnaire. En ce sens, il convient de compléter le règlement de la structure en son article 6, participation financière des familles, facturation, déduction du forfait, comme suit. Congé des familles dès le premier jour. 2 points. Les absences prévisibles à cette occasion devront être signifiées par écrit à la direction de l'établissement au moins 1 mois avant le premier jour d'absence. Vu la délibération 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de fonctionnement de la structure multi-accueil. Vu les délibérations numéro 2012 délib 67 du 13 septembre 2012, numéro 2013 délib 055 du 4 juillet 2013, numéro 2014 délib 097 du 23 octobre 2014, numéro 2014 délib 98 du 27 novembre 2014, 2017 délib 086 du 7 décembre 2017 et 2018 délib 011 du 8 février 2018 portant sur modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Vu l'extrait du projet de règlement modifié et annexé par la présente délibération, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification ci-dessous mentionnée du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil et dire que toutes les autres dispositions restent inchangées. D'autoriser M. le maire à signer tout document pour ce dossier.
Pardon. Merci. Y a-t-il une question, Madame Thibault?
Oui, c'est toujours en rapport avec la crèche. Je voudrais simplement rappeler publiquement, puisque le conseil municipal est enregistré, que lors des différents débats que nous avons eus concernant le règlement de la nouvelle réglementation de la crèche, et pour stopper toutes les rumeurs qui sont divulguées par vos élus, donc à aucun moment nous avons demandé à ce que la directrice de la nouvelle directrice de la crèche soit un emploi de médecin. Je tiens à le préciser. Simplement, nous avions fait ce choix-là. Par contre, je le rappelle, hein, parce qu'il me revient là, on me rapporte des choses, donc je tenais à le rappeler publiquement, que nous n'étions pas contre l'embauche de la personne qui est actuellement embauchée en tant que directrice de la crèche, mais par contre que par rapport à cette situation, il fallait qu'il y ait un médecin référence, chose qui a été faite suite à notre intervention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, que les choses soient très claires.
Merci de cette précision, mais dans mon esprit, dans, je pense, dans l'esprit de la majorité d'entre vous, non, il n'était pas question d'autre chose. De toute façon, comme vous le dites, les débats sont enregistrés, on sait très bien qui a dit quoi. Donc, c'était fait pour ça, d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, excusez-moi, mais on termine. Monsieur Villegès voulait aussi apporter une précision.
Je voulais simplement dire que c'était des propos qui étaient tenus hors conseil municipal. Comme, voilà.
Oui, bon, ce que je peux dire tout simplement, c'est que lorsqu'en décembre, début décembre 2017, la question était évoquée, je vous avais répondu que nous avions tout à fait conscience et nous savions qu'il fallait un médecin référent pour la structure, et je vous avais répondu que nous n'avions pas délibéré, nous n'avions pas inscrit ce point-là dans la délibération du mois de décembre, parce que nous attendions par ailleurs une notification de la CAF, et que nous attendions la notification de la CAF pour faire une modification globale du règlement de fonctionnement de la crèche. Il se trouve que la délibération du jour vient confirmer ce que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire que la notification de la CAF, on devait l'avoir en janvier, bon, on l'a eu 2 mois plus tard, mais il y avait bien une notification de la CAF qui justifiait que nous attendions pour faire un tir groupé sur le règlement de la crèche, ça n'a pas eu lieu parce que la CAF, au lieu de nous répondre fin janvier, nous a mi-janvier, nous a répondu fin mars. Voilà. Mais dès le mois de mai, dès que nous avons envisagé avec Madame Baillet son départ en retraite en fin d'année, on savait très bien qu'il fallait un médecin référent. Nous avions pris des contacts. Il se trouve que le contact qu'on avait pris n'a pas pu, pour des raisons du statut de la fonction publique hospitalière, concrétiser son désir de travailler avec nous, et donc la solution a été trouvée grâce à Madame Baillet qui nous a dit qu'on a su que cette dame ne pouvait pas assumer cette mission, nous a dit bah, écoutez, moi je le prends en charge. Voilà.
Oui, la PMI est intervenue aussi par rapport à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement par rapport à ce qu'on fait circuler, c'est tout. Après l'explication, ça fait.
Vous l'avez déjà dit, Madame Thibault. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Service enfant-jeunesse et service technique, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, oui, la proposition de Monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement saisonnier d'activité, un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet pour le service enfance-jeunesse et un poste d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal, du budget de la commune, pardon.
Y a-t-il des questions ? Prenez le micro, je vous prie.
Antoine Deschamps, la continuité. Donc, concernant l'adjoint d'animation territoriale, donc c'est Antoine Deschamps. Et concernant le poste adjoint technique, c'est Monsieur Ponce.
Ok, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier 14. État des déclarations d'intention d'aliéné, état des décisions du maire, vous les avez eues. Est-ce que vous avez des questions à leur propos? Pas de questions. Alors, autre question diverse, mais à condition que cette question concerne bien la vie municipale, la compétence communale, et non pas des questions d'ordre privé qui toucheraient à la vie privée, qui ne concernent pas le conseil municipal, qui ne serait d'ailleurs pas à votre honneur, qui serait une attaque personnelle. Au préalable, j'en profite pour vous rappeler le libellé de l'article 23 du règlement intérieur de notre conseil municipal que nous avons élaboré ensemble, que vous avez voté, et lequel article 3 stipule bien tout à fait clairement: lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, qui peut faire alors, le cas échéant, application des dispositions de l'article 21 du même règlement intérieur du conseil municipal. Alors, si vous voulez, encore une fois, parce que les élections approchent, faire du barouf sur quelque chose qui me concerne personnellement, écoutez, les camarades, toi, les électeurs jugeront de votre façon de faire, votre façon d'exercer votre mandat. Je pense que les électeurs jugeront. Vous avez néanmoins la parole parce que je n'ai jamais privé un élu d'opposition de la parole. J'espère ne pas avoir à le faire. Mais bien entendu, à condition que vous respectiez, comme je l'ai fait pendant 6 ans, absolument, Madame Thibault, vous donnez la tête, mais je ne crois pas que vous puissiez trouver dans les procès-verbaux des précédents conseils municipaux lorsque vous étiez maire la moindre attaque personnelle de ma part, la moindre perturbation de séance. Je ne pense pas. Et pour autant, cela ne m'a pas empêché d'être élu, vous voyez, comme quoi, j'ai pas bien entendu de conseils à vous donner, mais bon, voilà, chacun fait un petit peu selon son tempérament, selon sa personnalité. Moi, j'avais respecté les gens, les élus, vous, Madame le maire, quand vous étiez maire, en tout cas. Je n'avais pas fait ce que s'apprête à faire Monsieur Arcuzé, qui a la parole, à condition qu'il respecte le règlement intérieur et notamment son article 23.
Merci, monsieur le maire. Donc, les Camaritois, effectivement, jugeront si c'est d'ordre privé ou d'ordre général.
C'est une évidence.
Lié à l'avis de la commune. Donc, je ne rappelle pas les faits de ce matin sur votre condamnation pour conduite d'un véhicule sans permis, permis qui avait été suspendu il y a déjà plusieurs années. Donc, pour nous, trois questions se posent d'intérêt général.
Voilà, vous êtes effectivement dans l'attaque personnelle. Donc, je ne vous laisse pas la parole. Est-ce conformément au conseil municipal, je dirais simplement que la séance est levée. Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 mai. Mais voilà, un conseil municipal, c'est quelque chose qui doit être démocratique, digne, et pas le lieu d'attaque interpersonnelle. Voilà, c'est à peu près tout. La séance est levée.